Bonjour and welcome to our podcast series, Une ville, deux réalités, a meeting between Anglos and Francos 50 years after the Official Languages Act. Ce projet a été lancé dans le but de donner aux deux groupes linguistiques la possibilité d'échanger et d'exprimer leur point de vue sur la vie quotidienne afin de mieux comprendre et apprécier la dualité linguistique de la ville de Kingston et les Mille Îles. This podcast is presented in both official languages.
Bonjour et bienvenue à la nouvelle édition du projet Balado Diffusion, une ville, deux réalités. Aujourd'hui, nous discutons d'un sujet qui nous touche tous, l'accès aux soins primaires. Hello and welcome to the new edition of the One City, Two Realities podcast series. Today we are going to discuss a subject that touches us all, access to primary care. Bonjour, à nouveau, je m'appelle Jeanine Proulx, je suis votre animatrice pour cet après-midi. Je vais vous parler un petit peu de moi. Alors, j'occupe le poste d'agente de planification et d'engagement communautaire au sein du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Je suis en poste depuis 10 ans dans la région du Sud-Est. Mon travail consiste principalement à soutenir les fournisseurs de services de santé identifiés qui travaillent à obtenir le statut d'organisme désigné en vertu de la loi sur les services en français, et cela afin de garantir une offre permanente de services de santé de qualité en français à la population francophone. Je suis arrivée à Kingston en 1991 et je connais bien le milieu associatif ainsi que la communauté francophone de la région. Avec moi aujourd'hui, deux invités, Dr. Sophie Martel, médecin de famille au Maple Family Health Team. Merci d'être avec nous. Et une autre invitée, la deuxième invitée, Dr. Kim Morrison, qui est également médecin et qui est très engagée auprès de l'équipe santé Ontario de Frontenac, Lennox et Addington. Alors, merci à vous deux de vous joindre à nous aujourd'hui. Maintenant, Dr. Sophie Martel, je vais vous inviter à vous présenter à la communauté de Kingston. Parlez-nous un petit peu de vous.
Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Je suis une jeune docteur, disons. J'ai 10 ans d'expérience dans le milieu, 10 ans de pratique. Par contre, je suis seulement arrivée à Kingston en 2017 et commencé ma pratique au début 2018. Je suis une maman de 2 garçons et bientôt d'un 3e enfant qui s'en vient pour juillet. Donc, il y a de l'action dans l'air. Ensuite de ça, côté professionnel, en fait, on est d'abord tombé en amour avec la ville. En 2016, je dirais, on avait le goût d'explorer un petit peu, puis Kingston nous semblait un parfait milieu de vie. Donc, on a choisi de déménager là, durant mon 2e congé de maternité et puis commencer une pratique ici. Donc, se trouver une pratique pour faire de la médecine de famille.
Très bien, merci beaucoup. Now, Dr. Morrison, can you introduce you to the Francophone community? Tell us what you're doing and how you've been involved in the medical field.
Certainly, merci, Jeanine. Je parle un petit peu de français, so I will try a little bit in French, but mostly in English, if that's all right. Like Sophie, I'm a family physician. I've been in Napanee for the last 25 years. I trained and graduated from Queens in Kingston, and really liked it so much, I just really never left. With respect to the Ontario Health Team, which is the newest sort of innovation in healthcare, certainly in recent memory, I think we have the opportunity to truly build from the ground up a more collaborative and integrative system that will meet the needs of all of the people that we serve, and in particular, build that capacity in primary care such that everybody can feel like they have an attachment to primary care in a health home of sorts to which they feel comfortable and they feel that can meet their needs. I've been developing my leadership in this sorts of field over the past really decade, I guess. Now I'm feeling kind of old compared to Sophie, but we'll all get there together. I have been chief of staff in the Lennox and Addington County Hospital since 2013. And when the LINs had subregions, I was chair of the Rural Frontenac subregion. So bringing the perspective of the rural community to the table, and now in an Ontario Health team have the opportunity to work across borders within our own geography in Frontenac, Lennox and Addington to find the solutions for the challenges that we face. I have three children, and everything on the water is part of my favorite activities.
Merci beaucoup. Alors, comme on parle de santé, comme on parle de et que ce podcast est dédié à la communauté francophone, c'est le principal auditoire, je pense que c'est un incontournable. On doit parler de la loi sur les services en français en Ontario. Et comment ceci a une influence ou un lien directement avec la santé, parce qu'il y en a un. Donc, je vais faire juste un bref retour sur la loi sur les services en français. J'aimerais dire que Kingston a été déclarée 25e région désignée sous la loi des services en français en Ontario en 2006. Ceci est entré en vigueur le 1er mai 2009 et permettait donc un accès garanti aux services en français dans les bureaux du gouvernement de l'Ontario, donc des ministères qui ont des bureaux situés à Kingston. On pense à Services Ontario, on pense au ministère des Transports, ministère de l'Environnement et beaucoup d'autres. De plus, certains, et peut-être les auditeurs ne sont pas au courant de ça, mais il n'y a pas que seulement les ministères qui sont touchés par la loi sur les services en français. Il y a certains organismes aussi qui sont financés par le gouvernement de l'Ontario qui sont assujettis à la loi lorsqu'ils rendent des services à la population au nom d'un ministère. C'est le cas de plusieurs organismes, dont des organismes financés par le ministère des services sociaux et communautaires, le ministère de l'Éducation et de la Formation, le ministère du procureur général et bien entendu du ministère de la Santé et du ministère des soins de longue durée. Alors, pour ce qui est du domaine de la santé, c'est le AIRLIS, qui est maintenant devenu l'Agence Santé Ontario, qui a le mandat d'identifier les fournisseurs qui auront le mandat d'offrir des services de santé en français à la population. Alors, on a fait ça comment? Bien, le AIRLIS, en collaboration avec le ministère de la Santé, a regardé le continuum de soins. À partir de cet examen-là, a informé certains fournisseurs qu'ils auraient dorénavant l'obligation d'offrir des services de santé en français. Donc, en 2009, l'année de la désignation, l'entrée en vigueur de la désignation à Kingston, 14 organismes ont été identifiés et doivent poursuivre un objectif d'obtenir le statut d'organisme désigné en vertu de la loi, afin d'offrir, de garantir au public un accès permanent à des services en français. Bien sûr, au fil des ans, ces 14 organismes-là, il y en a qui ont vécu certaines fusions, réorganisations, donc c'est pas nécessairement, la plupart sont restés, mais ils sont peut-être sous l'égide d'un autre organisme. Et les organismes qui ont été sélectionnés proviennent de 5 secteurs particuliers. Donc, qui sont financés par Santé Ontario. Donc, ce sont des services, des organismes qui œuvrent en santé mentale et dépendance. Donc, ici, on a 3 organismes identifiés, l'Armée du Salut avec le Centre Arbor Light, les services de lutte contre les dépendances et de santé mentale de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington, et l'organisme Entraide du Sud Est ontarien, qui est un organisme de soutien par les pairs. Au niveau des hôpitaux, on a le Centre des sciences de la santé de Kingston, alors qu'il a vécu en 2017 une réorganisation, donc en fusionnant l'hôpital Hôtel-Dieu et l'hôpital général de Kingston. Et l'hôpital Providence Care est aussi au nombre des deux des hôpitaux. Pour ce qui est des soutiens, des services de soutien communautaire, il y a l'organisme Réadaptation à déficience visuelle qui a ses bureaux à Kingston, la société Alzheimer de Kingston, Frontenac, Lennox, Addington, les services canadiens de Louis et l'organisme VON du Canada avec son bureau de Kingston et en complément, les services de soins à domicile et en milieu communautaire du Sud-Est, l'ancien CASC ou le CCAC, le Community Care Access Center. Et au niveau des soins primaires, on a les centres de santé communautaire de Kingston qui a été nouvellement identifié en octobre 2020. Et au niveau des soins de longue durée, on a Providence Manor qui est associé à l'hôpital Providence Care. Donc ça fait le tour des organismes qui sont identifiés en vertu de la loi par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, par contre, on ne va pas parler de tout ça. On va se concentrer vraiment sur les soins primaires. Pourquoi? Parce que les soins primaires, c'est le premier niveau de soins. Donc, c'est l'accès aux médecins de famille, c'est la porte d'entrée du système de santé. So I will try to repeat in English what I've said in French, but I was talking about the law, the legislation in the designated area in the Kingston of Kingston under the French Language Services Act that took effect in 2009. So there is identified organization, health services providers that have been mandated to provide French language services to the public. And over the years, that list has evolved because of the fusion and integration of some organizations. And in terms of, so they are involved in different sectors, hospitals, mental health and addictions, community services, support services, long-term care, and primary care. And today we will talk mostly about primary care because it's the first entry level for any individual who needs health services. So, on y va. Maintenant qu'on connaît un petit peu mieux nos deux intervenantes de la journée, on va parler de comment on peut travailler, pas travailler, mais comprendre pourquoi, comment les médecins de famille arrivent à pratiquer à Kingston. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on... On dit qu'il y a un manque de médecins de famille, on dit qu'il y a des patients orphelins, donc qui n'ont pas de médecins de famille. On aimerait attirer de nouveaux médecins, mais comment fait-on pour justement commencer une pratique de médecine familiale à Kingston? Peut-être Sophie en premier?
Oui, je pourrais expliquer un petit peu mon cheminement là-dedans. Moi, j'arrive de Sherbrooke. À ce moment-là, je cherche un emploi. On aime Kingston, on veut se trouver un emploi dans cet environ-là. Je ne connaissais pas beaucoup de places à part la ville de Kingston. Autour, tout ça, c'était un peu inconnu, mais bref. Comment ça fonctionne, c'est que j'ai commencé à regarder des revues médicales. À la fin de nos revues médicales, on a un petit peu les petites annonces avec les offres d'emploi. Évidemment, là, les offres d'emploi, ça va un peu par province. Les journaux sont un peu au niveau canadien, donc... On cherche, là, on attend de voir une annonce qui passe avec le nom Kingston dedans. Comment je pouvais commencer une pratique en venant ici, finalement, surtout en ne connaissant pas le système. Je voulais définitivement une pratique au sein d'une équipe de médecins de famille. C'est aussi comme ça qu'on fait notre résidence. On apprend à pratiquer dans une équipe multidisciplinaire qu'on appelle au Québec un groupe de médecins de famille. Et ici, un Family Health Organization or Family Health Team. Donc, c'est avec non seulement des médecins, mais aussi des infirmières, des psychologues, des nutritionnistes. Et puis, donc, on veut avoir une pratique complète. On veut que nos patients aient des services. Donc, c'est un peu ça qu'on cherche souvent, en tout cas comme jeune médecin, puis qu'on veut qu'on veut joindre ce genre de pratique-là. Donc, j'ai trouvé finalement à Kingston, il y avait une offre d'emploi, il y avait quelqu'un qui prenait sa retraite, donc qui allait laisser sa pratique. Donc, c'est un peu comme ça, moi, à tâtons, là, en envoyant des courriels ici et là. Il y avait deux pratiques à ce moment-là, de différents genres. Puis, en échangeant des courriels, j'ai finalement obtenu une entrevue en juin 2017 avec mon petit bébé de 7 semaines. Et puis, je suis venue faire mon entrevue ici à Kingston. Puis après ça, dans le fond, on m'a recontacté pour dire que ça allait fonctionner. J'avais sûrement un accent très impressionnant quand j'ai fait mon entrevue, mais j'avais déjà, à Sherbrooke, on est dans les cantons de l'Est, on est dans les Eastern Townships, donc j'avais déjà une bonne notion là, de l'anglais. Ça me faisait pas peur du tout en m'en venant ici. Je pense que c'est sûr que c'est une condition importante pour un médecin qui veut s'installer ici dans la région. Il faut être à l'aise avec le bilinguisme, mais je trouve que c'est un très bon milieu pour rester francophone ou pour entretenir son français parce que c'est un milieu très mixte, un peu comme la région d'Ottawa, je dirais. On est privilégié ici pour le bilinguisme. Donc, je ne sais pas si ça explique bien le processus.
Oui, merci. Bien, c'est ça, c'est que pour les gens à la maison, ils se disent, bien, s'il manque de médecins, ils ont juste... On a juste à en accepter des nouveaux. C'est aussi simple que ça. Pourquoi on n'ouvre pas plus de cabinets de médecins? Mais il semble que c'est... Ben, faut attendre des offres, d'une part. Alors, il y a des places qui se libèrent. Peut-être, Kim, si tu pouvais nous parler des modèles de financement qui font que c'est plus ou moins facile d'ouvrir une nouvelle pratique si on veut commencer à zéro vraiment.
Yes, the Ministry of Health has a variety of different funding models for family physicians. I like to call it the alphabet soup. There's FIGS and FOS and FINS and FITS and CCMs and FFSs. All of which mean nothing to the patient or the people that family doctors look after. They just want a family doctor who's going to help them through their journey of healthcare. And one of the things that we are trying to work towards is a model of funding that means that patients get the same access to services regardless of how their physician is being paid, because that really creates huge inequities in our system. So we all like to, everybody outside of medicine and inside of medicine, people like to function at the top of their scope of practice, to what we're trained to do, to what impassions us, but also what we're good at and the services that we've been trained to provide. So by working in teams, family doctors with other allied health professionals, be they nurses or occupational therapists or social workers or community development workers, each member of the team can function at the highest of their scope of practice to be more efficient and deliver better care to the people in their practice. So the team-based models, such as the family health team that Sophie is in at Maple, has all of those team, those allied health professionals working arm in arm with the family doctors. In non-team-based models, so all of the other alphabets in that soup, the family physician works on their own. They can hire other staff, but that comes out of their pockets and they have to pay for them. And in a team, that's not the way it's built. It's built as a team. So it's harder to deliver that type of care all on your own. So the family physicians that don't work in teams need to take on all of those roles that in a team, other people who are really good at that do. And so it's a far less efficient system, and it's not how we train our residents now. Our people that are coming through in family medicine are trained to work in a team, and to go out to practice not in a team is hard, and you don't feel like you're working at the top of your scope of practice. You're not feeling like you can deliver the same level of care if you need to spend a fair amount of your time doing things that are better really done by other people. So the challenge we have right now with the funding models is that Only a certain number of people are allowed to come and work in a team. There are no new spots. So somebody has to leave for us to bring in a new physician to fill that spot. And that's, we're thankful Sophie got here. And that's great. But to attract more physicians and say, yeah, I know this is how you trained and I know you want to work at the top of your scope of practice, but we don't have any of those spots. We want you to come and set up practice by yourself, do all those jobs yourself, for the same remuneration and being held accountable to the same standards that you know you want to give to your patients is the big challenge.
Yeah. And I imagine also that there is a funding capacity at the Ministry of Health who pays mm-hmm. for the service at the end of the day. So someone is paying for the doctors to do what they do, right? So I guess there is a also a kind of a formula per capita about how many family doctors should be practicing in a geography like Kingston. And so there is, it's not only the willingness of the doctors who want or don't want to come, it's is there a spot available or no?
Exactly. Exactement.
Exactement. Et je pense que ça explique qu'à Kingston, il manque non seulement de médecins francophones, mais il manque des médecins, des médecins de toute langue. Et parce que finalement, on veut ces postes-là spécifiques au sein des équipes. C'est ça qu'on aime. C'est comme ça qu'on aime pratiquer. Mais il y a un nombre limité par ville, par région. Et donc, c'est pour rentrer, il faut trouver. Un petit spot ou un poste qui se libère.
Ouais, et c'est ça. Et là, on parle même pas des spécialistes. Là. On est vraiment toujours dans les médecins ouais. de famille.
Exact.
Donc, je pense que c'est important qu'on explique que c'est pas juste d'attirer des médecins de famille qui sont bilingues, qui pourraient pratiquer dans les deux langues. Le défi est plus grand que ça. Ça demeure un défi, sans doute, d'attirer des gens bilingues, mais il y a quand même que s'il n'y a pas de place disponible, on ne peut pas faire d'efforts d'attirer. Même si on faisait des efforts et qu'on trouvait quelqu'un d'intéressé, il ne pourrait pas s'installer à Kingston dans l'état actuel des choses. C'est la réalité. C'est la réalité dans laquelle on est.
I'm hopeful, Janine, that one of the things that we can do together, now, I think with the Ontario Health Teams, it really has helped bring our primary care community together to be able to speak as primary care and then to reach out to our community, such as the Francophone community, and to say there is a, not only to Sophie's point, is there a need for physicians, but there's a desperate need for physicians to meet people's needs in French. And how can we advocate now as a group, as a stronger voice than just one or two, but together with our partners to say this is a, you know, outside of your just statistics about doctors equals X number of patients, how about the kind of patients and look at the characteristics of our patients and what kind of physicians we need in order to care for that population. So exactly to your point, you know, how many physician, primary care physicians who are able to meet people's needs in French, do we need, and how many do we have, and what's the gap, and how do we address that?
Yeah. Et comme je le disais aussi un peu en introduction quand je présentais le système de santé, en tout cas avec le Santé Ontario, ce que gère, ce qu'administre Santé Ontario dans les régions pour la planification des services au plan local, au niveau des soins primaires, le seul modèle qui est financé à travers Santé Ontario, c'est à travers les centres de santé communautaires. Alors que pour tout ce qui est autre de pratique en soins primaires, les équipes de santé familiale, toutes les autres vocables de l'alphabet, c'est directement financé par le ministère de la Santé. Et donc, Santé Ontario, qui est l'agence de planification du système maintenant, n'a pas son mot à dire, n'a pas à intervenir sur sur les besoins de la communauté. Et donc, une façon, je pense, d'augmenter la capacité au niveau des soins primaires, c'est par le biais de la formule actuellement la plus rapide et possible, sans doute, faisable, c'est à travers les centres de santé communautaires. À Kingston, le Kingston Health Community Center vient d'être identifié comme devant desservir la population francophone. Ça aurait dû être fait dès le départ en 2009, mais l'ERLIS l'a oublié. Oublié ce secteur de soins-là à l'époque, mais on s'est rattrapé. Alors, c'est tout récent. Et effectivement, avec le besoin dans la communauté d'avoir accès à un médecin de famille, c'est une formule. Et là, évidemment, la formule de rémunération du médecin est à travers le centre de santé communautaire et non directement avec le ministère de la Santé, mais c'est une avenue à ne pas négliger. Mais je voulais quand même mentionner cette petite nuance-là parce que ça ouvre peut-être une certaine fenêtre d'opportunité aussi. Pour cet organisme-là de voir ajouter du personnel au niveau d'un médecin de famille. Parce que eux aussi, les centres de santé communautaires, ce sont des équipes multidisciplinaires. Maintenant, I'd like you, Kim, to talk a little bit more about the Ontario Health Team in the matter of, so we know there is this shortage of doctors and specialists, but what is the OHT putting together or trying to put or to push in order to address the gaps in terms of family doctors in its geography?
Certainly, the Ontario Health Team as a construct in the province is designed to foster collaboration and integration and really empower communities, you know, in partnership with the people in the communities, to build the health system that best meets their needs. And so by collaborating together and bringing together the silos that currently exist into a single care team, the goal and the hope is that by co-designing this system with the people that use it and the people who try to deliver it, we can find the ways to make care more accessible, more equitable, and more efficient. So by having a single care team that, you know, you may move through different care providers during your health journey, but it's all part of the same team. You have an integrated record. You don't have to keep repeating your story. You have access to the levels of providers you need when you need them. So if you don't need an orthopedic surgeon, for example, you need a physiotherapist, you can get there directly. You don't have to go through multiple steps to get there. You don't have to wait. It's all part of the same care team, and you can have access to the people that you need at the time that you need it. And in doing that, in that care team, it will build capacity. It will allow our family doctors to do more of the work family doctors should do. It will allow our physiotherapists to do more work that the physiotherapist should do, and create capacity for the specialists to be doing the work that only specialists can do, because other people in that same care team can deliver care needs that are best met elsewhere. And not only by busting down those silos, getting rid of the idea that people are discharged from one care provider to another, it's one journey. It's one patient. It's one journey. And there should be one team that looks after that. And so our goal in to try and do that is to build health homes. And in the health home are the core services people need to be well at home. So recognizing that people are their themselves, their biggest care provider, followed by their families and their caregivers and their loved ones that surround them. That health home is where the vast majority of resources to support people's wellness at home should be. And a health home will look different for different people, depending on, say, their language, or they may not have a home. Some people are homeless and they need a different health home. It's not four walls. It's the concept of what are the wrapping that you need around you to keep you well and to keep you healthy. That next layer of the primary care piece that we're talking about today aims to support that wellness, how to support healthy behaviors, how to focus on preventative care and chronic disease management to keep people, again, all well in their homes with the team, like we've talked about, to support that. And so I'm hopeful that in this model, partners can come together and realize that not everybody needs to be everybody, everything to a single person. But if we work together as a team, we'll find that capacity. We'll find those resources to give equitable, accessible care to people in the way that they need it. And so, you know, for French people in French language, I mean, that's the right. That's what our job is to do. You shouldn't need to beg for it. It's yours to have. And in doing it this way, we get to be creators with people of our own system. And I think that's the only way that it will be sustainable. Does that answer the question?
Yes, it sure does. Je veux juste revenir sur une chose qui est fort intéressante dans ce que vous dites toutes les deux, c'est-à-dire la façon dont les médecins maintenant, la formation des médecins, comment ça se fait maintenant, c'est beaucoup en travail d'équipe, alors en collaboration avec d'autres professionnels du milieu de la santé pour offrir les meilleurs soins possibles, les meilleurs choix possibles aux patients. Et aussi, je fais un petit retour, Sophie, à ce que tu disais, comment toi, tu as appris, tu regardais un petit peu dans la région de Kingston, c'était ton souhait, puis tu as surveillé les possibilités qui s'offraient peut-être dans cette région-ci. Et il y a, je pense, une nouvelle initiative de l'équipe Santé Ontario sur le site web. Je pense que vous allez aussi justement mettre en valeur ou en tout cas souligner sur le site web où est-ce qu'il y a des besoins au niveau des soins primaires, où est-ce qu'on a besoin de médecins de famille. So I was just referring to the website, the FLA OHT website. I don't know if I have the right acronym here, but there is a section on the website about opportunities in primary care. So when there is when there is a team-based model that, let's say a doctor would like to retire, and so they are offering a spot in their practice. So you're building the site and having in mind that to address the shortage, you need to kind of raise the awareness that we're seeking and we are in need of recruiting those family physicians. So it's just starting up, right? So it's just you're just starting this new way of. It doesn't mean that you won't talk to universities who train the doctors, but you will be using this new vehicle as well to promote the need for to attract family physicians in the Kingston area.
Yes, it's we're adding it as a tool in our armamentarium to raise the awareness that Kingston in the area is looking for physicians, and where those opportunities may be. It certainly won't replace the journal where Sophie found the ad, and certainly our connections through our teaching when we teach residents. We hope that we give them a really good experience, and we get to know them too, to know whether it would be a good fit to work together. So, you know, I feel like we have multi-pronged approaches, and the posting on the OHT website is a testament to how primary care is really coming together to try and work together, as opposed to, you know, six organizations going out to, and probably talking to the same person. There's a unified way to do that together.
Et Sophie, pour revenir à ton parcours, tu es arrivée ici, tu voulais venir dans la région et tout ça, mais comment as-tu été accueillie par la communauté médicale, par la communauté francophone? Comment ça s'est passé, ton installation, apprivoiser la région, etc.?
Ça s'est bien passé. Évidemment, quand on arrive ici puis qu'on ne connaît pas vraiment personne, on n'a pas les attentes d'arriver puis d'avoir déjà son réseau là, de former. Mais j'avais déjà deux collègues à Sherbrooke qui avaient déjà travaillé à Kingston. J'avais un ancien ami du secondaire qui vivait ici à Kingston en tant que militaire. Donc, tu sais, j'avais déjà eu une idée de ça ressemblait à quoi l'environnement, ça ressemblait à quoi vivre à Kingston. Une fois qu'on est dans notre maison, dans notre quartier, bien après ça, les connaissances se font beaucoup à travers nos enfants, une fois qu'on est parents. Donc, au niveau communautaire, je dirais, ça s'est fait à travers la petite preschool de Nathan, où est-ce qu'il est allé là, au début, quand on est arrivé. Puis, on s'est fait des amis principalement anglophones via cette petite école-là. Et puis, au niveau de l'équipe ici, je trouve que j'ai vraiment, vraiment eu un bel accueil. J'aurais pas pu demander mieux. Comme n'importe quel nouvel emploi, les 6 premiers mois, je dirais, c'est toujours plus stressant. Mais, et très occupé. Ça a été très, très occupé. Mais encore une fois, ça a fait tellement une différence d'avoir ma collègue infirmière, d'avoir mes autres collègues médecins, d'avoir du support finalement de tous les professionnels de la santé, parce que si on veut référer à quelqu'un aussi en tant que médecin de famille, c'est important d'apprendre à connaître le réseau. Donc, le support des collègues est très, très important. Donc, je suis arrivée au sein d'une quand même grosse équipe. Puis, l'accueil, c'est très bien fait. Quand on est différent, en même temps, il y a toujours un petit quelque chose qui charme puis au niveau de l'accent et tout ça. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est très bien. Puis comme je disais, il y a un mélange d'anglophones, de francophones, mais il y a aussi un mélange de Kingston, des gens qui sont nés à Kingston, mais beaucoup, beaucoup de mouvements. C'est incroyable comment ici il y a du mouvement d'autres provinces, des gens qui arrivent de Toronto, beaucoup de jeunes familles qui arrivent de Toronto. Donc, c'est très dynamique. Donc, même si on n'est pas né à Kingston, on peut rencontrer des nouvelles personnes puis des nouveaux amis.
Et toi, c'est sûr, quand tu es arrivé, tu arrivais déjà avec un lot de patients. Tu avais déjà, je ne sais pas comment. Un gros lot. Ouais. Et parmi ce lot de patients-là, est-ce qu'il y en avait qui étaient francophones ou c'était 100% anglophones?
Non, il y en a une partie qui était francophone et c'était tout à fait charmant puisqu'au transfert de la pratique, le médecin qui prenait sa retraite qui était anglophone m'a dit « Ah, tu vas voir cette personne-là, fait des tourtières. » Donc, il y avait comme le souhait. Les patients étaient très contents, premièrement, d'entendre que leur médecin allait être francophone. Mais je dirais c'est une minorité de mes patients. Je dirais maximum un patient par jour va être francophone. Ça s'est quasiment un peu inversé par rapport à ma pratique anglophone à Sherbrooke. Je dirais qu'il y avait peut-être justement 10 % de mes patients à peu près qui étaient anglophones à Sherbrooke. Puis ici, ça s'est un peu inversé. Là, je dirais à peu près 10 % Des fois, c'est 1 à 3 par jour, mais c'est toujours plaisant aussi parce que ça a pris tellement de temps à s'adapter, à écrire des notes en anglais dans le dossier, tout parler en anglais à un patient, c'est des choses que je n'avais pas tellement pratiquées. Puis là, hop, on a un coup de téléphone maintenant, on téléphone à nos patients ou on a un rendez-vous en personne en français. Ça nous force à rester actifs dans les deux langues. Moi, je trouve ça fascinant. Je serais pour que tout le monde parle plein de langues, puis je trouve ça, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs langues, puis ça je pense que les patients aussi ils aiment ça. Des fois, on a des mots pour expliquer des symptômes qui sont avoir mal au cœur, c'est pas la même chose en anglais. Puis c'est juste un exemple pour dire que ça fait du bien peut-être des fois s'exprimer dans sa langue maternelle.
Ouais. Oui, je pense, c'est ça. Puis je pense que tu témoignes aussi que c'est c'est pas ardu pour toi de transiter d'un patient anglophone à un patient francophone, mais par contre ce qu'on note, c'est l'appréciation. Tu as parlé tout de suite, les patients sont tellement contents.
Ouais,
et qu'on ait la consultation en français. Donc ça, c'est certainement plus facile de s'exprimer. On a tous les mots quand c'est notre langue maternelle.
Il y a vraiment quelque chose de spécial, c'est ça, à pouvoir le faire. Puis même, je dirais, les patients anglophones, il y en a beaucoup qui sont excités de pratiquer leur français, qui s'essaient.
Okay.
C'est très charmant.
Oui. Écoutez, on va faire une petite pause là-dessus et puis on reprend dans quelques minutes avec la suite du podcast. Alors, pause santé. Merci.
Merci.
Thank you for listening to One City, Two Realities, Une ville, deux réalités, brought to you by ACFOMI, l'Association canadienne-française de l'Ontario, Conseil régional des Mille Îles, and produced by Titan Sound in Kingston. Music composed by Elizabeth Santos. ACFOMI souhaite remercier gracieusement Patrimoine Canada, the Kingston Frontenac Public Library, nos partenaires médias, nos commanditaires, et nos invités spéciaux. Visit acfomi.ca for the latest information on our podcast series, as well as all the bilingual events happening in the Kingston and Thousand Islands region.